I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pourquoi vous vous mettez loin de moi? Vous m'aimez plus?
Non, parce, mais que, j'ai à côté de
parce que vous n'avez pas la Wi-Fi, voilà pourquoi.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cyanociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'aime pas plus que ça la propension qu'à notre époque, renforcée par la présence des réseaux sociaux, à dégainer du RIP, du emoji qui pleure et des tirades enflammées dès qu'un grand nom de la culture mondiale tire sa référence. Ceci étant dit, notre conscience de cinéphile nous pousse tout de même de temps en temps à mettre de côté ses réserves pour nous aussi saluer la mémoire d'une de ces icônes défuntes, en l'occurrence le grand Isao Takahata, légende de l'animation japonaise décédé le 5 avril dernier, auquel l'épisode du jour sera consacré en compagnie de mes deux tanuki préférés. Ferré réuni ici à l'antenne Paris, Rafik Djoumi, salut Rafik.
Ça me plaît, ça.
Ça me plaît comme référence. Voilà, voilà.
Je vais utiliser ma peau de testicule.
J'espère que vous allez bondir avec vos peaux de testicule. Julien Dupuy, bonjour Julien.
Bonjour.
C'est nos ciné, épisode 133, c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Je plaisante Julien, tu n'as pas besoin de jouer avec ta peau de tes testicules, tout va bien. Impossible,
tu fais
ce que tu veux avec, c'est vrai. Impossible d'évoquer Takahata sans qu'immédiatement, outre l'image donc des Tanuki utilisant ce qu'on vient de préciser comme parachute, ne vienne à l'esprit une pierre angulaire du cinéma d'animation, un de ces films qui ont permis au genre de s'imposer comme un réel exercice de cinéma et non pas une simple curiosité réservée à quelques fans nippophiles. Je veux évidemment parler du tombeau des Lucioles, tire l'arme d'une violence rare dont les échos traumatiques résonnent encore dès qu'une chaîne a le courage ou l'inconscience, ça dépend de le reprogrammer. Moi j'adore, hein, mais bon, je pleure beaucoup à chaque fois, mais c'est parce que je suis sensible, c'est comme ça.
Je crois qu'on pleure en entendant le titre.
Juste en entendant voilà, le tombeau des Lucioles.
Je pense que Pablo Escobar pleurait devant le tombeau des Lucioles.
Mais c'était un homme sensible, tu sais, il aimait beaucoup sa famille. Alors, qui veut se lancer, non pas sur Pablo Escobar, mais pour évoquer justement la carrière de ce bon Takahata, ce sera Julien Dupuy, désigné par la foule.
Pourquoi moi? Mais c'est compliqué en fait d'aborder la carrière de Takahata, parce que c'est un mec... C'est un réalisateur, c'est un auteur qui est un peu, qui était un peu à part. Je pense que, enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, c'était pas un dessinateur. J'ai du mal à parler de lui au passé, tiens. Mais c'était pas un dessinateur en fait, comme Miyazaki.
Oui.
Lui, il était plutôt distant vis-à-vis de tout ça. C'était pas non plus un bourreau de travail fou comme il y en a beaucoup en fait dans l'animation japonaise. Miyazaki, c'était un mec qui bossait énormément. Hein, et ses films, on en reparlera, sont souvent des vraies prouesses techniques et artistiques. Mais Miyazaki se moquait de lui en disant que c'était un peu une dilettante en fait Takahata. Et je pense aussi que le truc c'est que il a cette particularité d'avoir fait des films, pour la plupart profondément japonais, c'est-à-dire qu'il travaille au corps ou alors le quotidien japonais ou l'histoire japonaise ou la mythologie japonaise, mais en étant irrigué et influencé énormément par tout ce qui est européen en particulier, oui. et français plus spécifiquement. Pour l'anecdote, quelqu'un qui est cher à mon cœur avait passé une journée avec lui à Paris. Lui, il était devenu hystérique, littéralement, dans le taxi quand ils sont passés devant l'Olympia, par exemple. Oui. Donc, je pense que ça en dit aussi long sur le personnage, qui était assez curieux et qui était un fan absolu... d'une part de Prévert, mais aussi de Grimaud,
oui.
et qui a été extrêmement influencé par ce film en fait, qui a d'ailleurs irrigué énormément toute l'animation internationale, qui est Le Roi et l'Oiseau.
C'était plus La Bergère et le Ramoneur.
Le Bergère et le Ramoneur, oui. Aussi, oui. Qui est antérieur, qui était avant.
Le moyen métrage qui est resté inachevé et qui est devenu plus tard Le Roi et l'Oiseau.
Voilà.
On retrouve deux des personnages essentiels de la Bergère Ramoneur. Rafik, allez-y, vous avez pris la parole.
Pardon.
Parlez-nous de Takahata.
Il fallait pas.
Mais si, vous êtes là pour ça.
Alors, je vais parler de ma rencontre, en fait, avec
je connais cette rencontre.
Le bonhomme. Non, c'est pas sûr. En fait, c'est comment dire. Je l'ai découvert enfant, en fait, sans connaître son nom.
Ouais. Comme beaucoup de Français, d'ailleurs.
Oui, comme beaucoup de Français. Mais j'ai le souvenir assez vif qu'il y avait quelque chose qui me perturbait dans le dessin animé Heidi. Et que je ne trouvais pas dans les autres dessins animés japonais qu'on avait à l'époque. Et c'était cette sensation. Moi, je suis pas né en Europe, donc j'ai un rapport assez charnel avec la géographie européenne. Mmh. Et je retrouvais ce rapport charnel dans les cellos de la montagne de Heidi. Et c'était vraiment un sentiment diffus, intrigant. Et donc, c'est des années et des années plus tard que j'ai découvert que Takahata donc a bossé sur la série et que c'est lui en fait qui poussait ses collègues dans l'animation dont Miyazaki à passer des heures et des heures et des heures à s'imprégner en fait de quelque chose. Ils ont été jusqu'à voyager en Europe, oui, hein, ils ont été en Suisse, oui, pour travailler sur Heidi et c'est payant cette espèce de rapport qui est vraiment dans la tradition picturale japonaise depuis longtemps. On peut évidemment citer Okusai qui est un peu considéré comme l'annonciateur du manga bien avant l'heure, mais même en remontant plus loin. D'une espèce de discipline qui vise à capturer d'un trait une sensation en fait du décor, non pas le décor lui-même, mais ce qu'il réveille dans le corps en fait. Oui. Quand il parlait de son travail, il avait toujours comme ça il était obsédé en fait par la façon de capturer la réalité. Il y a deux concepts en fait. J'ai plus les mots japonais, donc je vais éviter de m'embarquer là-dedans. On va rire de moi, mais dans ses interviews, voilà, il insistait beaucoup là-dessus. Et c'est ce que, d'après lui, Grimaud avait capturé dans La Bergère et le Ramoneur. Il était aussi un grand fan de toutes les productions russes de la alors à chaque fois j'arrive pas à le dire le nom des studios Soyuz Multfilm qui ont généré la plupart des grands noms de l'animation du bloc soviétique. Les Français d'aujourd'hui ne savent absolument pas à quoi je fais référence, mais les gamins de mon époque qui ont eu la chance de vivre avec une télévision publique remplie de communistes connaissent bien ces trucs d'animation qui passaient régulièrement, les courts-métrages de Yuri Norstein, et y compris les longs métrages de Lev Atamanov, comme le plus célèbre d'entre eux étant la Reine des Neiges, qui est considéré par beaucoup d'animateurs japonais comme le point de départ quasi sacré de l'animation japonaise. En fait, eux aussi ont eu ces productions, oui, et elles les ont presque plus influencé que Disney en fait. Oui. Et Yuri Norstein, c'est court métrage que vous trouvez facilement sur internet, voilà. Et vous retrouverez cette sensation spécifique pour laquelle j'ai pas de mots personnellement. Il existe des mots japonais, mais je les connais pas.
Mais ils ont des mots pour tout.
Voilà, d'avoir saisi un instant en fait, oui, du paysage. Et ça a été voilà donc ma première rencontre avec Takahata. Donc il est important de voir qu'il a le rôle qu'il a joué aussi par rapport à quelqu'un comme Miyazaki, puisque il a plus été lui le mentor de Miyazaki que c'était pas vraiment des partenaires en fait. Comme il n'avait pas le sens des affaires, etc. Il a laissé Miyazaki gérer
Et puis c'est de lui-même un peu écarté, voilà, sachant que Miyazaki étant Miyazaki, voilà, il était.
Mais au studio Ghibli, tout le monde le dit, hein, sans Takahata, qui a Il y a pas de studio quoi. Donc
il a vraiment mis le pied à les étriers, voilà. À Miyazaki, il l'a poussé à sortir.
Déjà c'est lui qui a réalisé cette super production de la fin des années 60 pour la Toei qui était Horus, le prince du soleil, ouais. Sur lequel Miyazaki a fait véritablement ouais. ses premières armes. Ça restait un film de Takahata. Donc c'est lui qui l'a entraîné sur ID, c'est lui qui l'a entraîné sur Lupin, la série Lupin 3. Dès la fin des années 70, il était installé comme un réalisateur de référence, là où encore Miyazaki était en train d'essayer de se débattre et de trouver son style. Si vous êtes fan de ID, je vous conseille aussi d'aller jeter un œil sur une autre série qui s'appelle Akage no Anne, qu'on n'a pas eu en France, hélas. Alors c'est Anne au pignon vert, je crois.
Je me rappelle plus du titre.
Voilà. Dans lequel vous retrouverez cette ambiance et ces paysages magnifiques, avec encore plus de soins que ce qui a été apporté sur Heidi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, à part refaire sa filmo, il y a aussi quelque chose qui peut-être joué. Il y a deux choses qu'on joue peut-être jouer en sa défaveur dans sa reconnaissance immédiate en Europe, là où Miyazaki a finalement, même si ça a été très très tardif, il faut rappeler que Miyazaki, les Européens, enfin notamment les Français, l'ont vraiment découvert à la fin des années 90, non pas avec Porco Rosso, tu rêves, Porco Rosso il a fait 5 entrées en salle.
Non, ça avait pas très mal marché. Hein,
c'est vraiment Mononoke qui a lancé l'affaire. Ouais. Porco Rosso, ça n'avait pas marché, non.
Ah ouais, tu crois.
Mais ce qui a tardé, mais encore aujourd'hui, les gens ont un peu de mal avec Takahata, c'est aussi parce qu'il a peut-être un style moins identifiable. Il n'a pas arrêté de changer.
Et c'est ça le truc
de
aussi.
De style d'animation d'un film à l'autre. Oui. C'est un expérimentateur. Il aimait utiliser un peu tout ce qui lui tombait sous la main. Mais vas-y, Julien.
Non, mais c'est vrai. C'est un truc hallucinant. Tu parlais de Rousse tout à l'heure. Alors là, ce serait peut-être plus vers Tezuka qui ferait tourner pour le style de Rousse. Mais qui est la petite.
Qui est la petite Chippie, c'était
on était dans un univers absolument complètement différent, évidemment le tombe des Lucioles encore.
Qui est la petite peste, c'est un peu dans le style d'Akira Toriyama. D'ailleurs, c'est de la même époque, je crois que c'est de 81 le film, et Toriyama a commencé Dr. Slump en 1980. Il y a un peu ces mêmes délires de super déforme et compagnie.
Même au niveau de la rythmique, de l'humour.
Tout
en
à fait. Et il y a le personnage. Il y a du père dans qui est, c'est quasiment le portrait du Dr. Slump. Je ne sais pas qui a influencé qui dans l'affaire, mais on est plus dans cette ambiance-là.
Et déjà une fascination pour les testicules. Il y a tout un truc avec des chats, voilà. En fait.
Et les familles dysfonctionnelles aussi.
Les familles dysfonctionnelles, mais de toute façon, c'est un film super intéressant. C'est un peu un film... précurseur quasi, en fait, je trouve, de les Yamada, en fait. Il y a de ça, en fait. C'est-à-dire que c'est même dans la narration, en fait, c'est extrêmement morcelé. Il y a un fil conducteur, mais on reste comme ça sur plus des vignettes de vie. Et il y a presque aussi un côté portrait, en fait, d'une communauté, en fait, avec ce sens, parce que c'est vrai qu'on est totalement, comme tu le disais, chez Toriyama, etc., mais en même temps, un sens de la véracité, en fait, de ce qui existe là. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de sentir les brochettes qui sont en train de cuire ou de fouler les pavés, en fait, de ces petites de ces petits quartiers, en fait, avec tout.
Et
avec
la gestuelle de la gamine, de la petite peste, quoi, qui est vraiment une saleté de gosse. Moi j'ai un fiston qui arrive à l'âge où il commence à savoir sur quel mauvais bouton appuyer, et il a cette même gestuelle. Il y a toujours un geste hyper précis chez Takahata. Je serais tenté d'employer le terme impressionniste, en fait. C'est vraiment par petites touches que ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il a changé de style régulièrement. Donc le style des Tombeaux des Lucioles n'a rien à voir avec celui de Pompoko, qui n'a rien à voir avec Only Yesterday. Alors je risque de donner souvent des titres anglais.
C'est goutte à goutte.
Voilà, c'est une déformation, parce que c'est des films que j'ai découvert à l'époque du Laserdisc, dans des versions américaine, enfin anglaise. Souvenir goutte à goutte, qui est encore un autre style, qui est un film méconnu et dans lequel justement.
Mais qui est sorti uniquement en DVD, je crois, en France. Ouais. Ils n'ont pas sorti en salle Disney.
Mais dans lequel justement on voit assez bien ce qu'il cherchait à capturer, puisqu'en gros c'est un film qui tente de rendre épique la vie d'une adolescente banale, quoi. Et c'est tous les petits instants. d'une vie d'adolescente, mais qui sont mises en scène d'une façon absolument sublimissime. Enfin, la sensation quand, du premier baiser, par exemple, il te fait une séquence ahurissante de semi-envol, si tu veux, oui. De la façon avec laquelle son cœur, qui était super lourd, tout d'un coup devient léger, et tout ça dans un graphisme incroyablement élégant.
Mais c'est un truc, de toute façon, qui est recherché, enfin, qui avait déjà dans Kier, puis qu'on retrouve, moi, enfin, à mon sens, un peu dans la séquence d'ouverture absolument incroyable des Yamada, en fait, où t'as une espèce de métaphore comme ça de ce qu'est la vie de couple, mais qu'il transpose en fait dans un truc complètement épique, aventureux, où il passe d'un truc à un autre, mais qui en même temps, je trouve, hein, extrêmement sensible et te parle totalement. C'est-à-dire qu'il avait aussi une faculté de... mais qui est déjà un peu dans Rousse, hein, d'ailleurs, je trouve, de transmettre l'intime dans quelque chose d'épique aussi. Il y avait ça aussi, je trouve, Takahata.
Et donc, en dehors du Tombeau des Lucioles, qui, je pense, est le film sur lequel tout le monde se retrouve et se reconnaît, donc il faut aussi, au passage, apprécier l'exploit que ça a été à l'époque. Hein, faut quand même, Ghibli venait à peine de démarrer. Enfin, ils avaient effectivement deux énormes succès dans les pattes qui leur ont permis d'exister sur la scène, mais c'était un risque insensé. Bah,
c'est un film d'une violence inouïe,
d'ailleurs, vraiment. Qui est sorti en même temps. C'est un Totoro. Risque insensé aussi,
oui,
hein, d'ailleurs.
Fait. Totoro, qui d'ailleurs, soit dit en passant, donc on l'a déjà fait remarquer ailleurs, hein, mais un dérivé de Panda Copanda, de Takahata, qu'il avait fait dans les années 70. Et donc voilà, il y a ce risque insensé pour lequel les Japonais lui ont été reconnaissants, parce que c'est un film qui
Panda,
les a vraiment...
Petit Panda, je cherchais le titre français, oui, pour les gens qui veulent le retrouver, à montrer absolument à vos enfants, d'ailleurs.
Pas le Tombeau des Lucioles.
Attendez
vachement.
Alors, le Tombeau des Lucioles, on lui posait la question à Annecy dès le milieu des années 90, de savoir justement, c'est une question qui... Parce qu'en fait, beaucoup de gens ont voulu défendre le film à une époque où il était encore peu connu en France, et utilisaient un peu ce raccourci en disant, parce qu'on était encore à une époque où le dessin animé japonais était très très mal vu.
Oui, bien sûr.
Et donc, l'argument c'était, mais tu devrais le voir, ça se regarde comme un film.
Oui.
Et donc, si ça ressemble à un film, c'est que c'est bien, tu vois, en gros. C'est une façon de priver ce film d'animation de ses caractéristiques d'animation. Et ça, bon, bah, Takahata, il le disait en interview, c'est un film qui est impossible à faire en live, de cette façon-là. Parce que justement, les heures longues qu'il a passées sur le moindre cello, tu peux pas les refaire sur un vrai tournage. Il dit, si j'avais dû prendre une actrice pour jouer cette petite fille, je l'aurais rendue folle.
Oui.
Vous imaginez pas les heures que j'ai passées
sur
un clignement de paupières, un geste.
Ça, et puis je pense qu'il y a aussi une volonté de les décaler. C'est-à-dire que dans la séquence d'ouverture du Tombeau des Lucioles, je pense qu'il y a une volonté aussi de décaler par rapport au truc. T'es dans un... pour moi, c'est une vraie vision infernale, en fait. Il y a quelque chose de ça. Hein. Et je pense que, voilà, visuellement, il y avait aussi cette volonté, encore une fois, de parler du réel, mais de
transfigurer.
En live action, le film serait irregardable.
Il y a un film en live action.
Il y a un film en live action, sans intérêt.
Non. Voilà. Moi, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, j'ai vu Abondance, ça m'a suffi. J'ai pas envie de toucher au Tombeau des Lucioles.
Et l'autre film pour lequel il est très connu, et qui aurait pu, à un détail près, le faire connaître beaucoup plus amplement, je pense en France, bien sûr, c'est Pompoko, qui a été diffusé dans un festival de films pour enfants à l'époque, des années 90.
Génial.
Mais les gamins ont adoré, évidemment.
Bien sûr.
Mais t'imagines.
Mais il n'y a pas les tabous au Japon.
T'imagines la gueule
des
parents. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Pompoko, voilà, c'est donc l'histoire des tanuki qui sont ces espèces de ratons laveurs qu'on trouve au Japon, qui s'aperçoivent que les humains commencent à prendre de l'avance attaquent la forêt sur leur territoire, et savent absolument pas.
En fait, c'est nos amis les hommes en bien, en chef-d'œuvre.
Ils ne savent absolument pas comment éviter ce cataclysme, parce que jusque-là, ils ont vécu en bonne entente avec les humains, et par tous les moyens, ils se transforment en fantômes, etc. Bon, bref, ils deviennent aussi des commandos, ils vont jusqu'à tuer des ouvriers. Et donc c'est un peu l'histoire de leur guerre désespérée contre ces humains qui n'arrêtent pas d'avancer. Et donc le truc au cœur du film, c'est que leur pouvoir de transformation, ils l'ont grâce à leurs testicules. Et donc ils font des tas de choses merveilleuses avec leurs testicules. C'est adorable.
Ce qui est songeur. Hein.
Voilà. ce qui est absolument adorable, très drôle, qui fait applaudir les gamins, mais qui laisse les parents un peu quoi.
Ce qui avait embêté un peu Disney.
Et du coup, ils n'ont pas sorti en salle à l'époque, parce qu'il y avait eu un plan de distribuer en salle.
En salle, mais je crois en effaçant. Enfin, il y avait eu cette rumeur en tout cas. cas, j'ai jamais eu de confirmation que c'était vrai, que Disney avait voulu essayer de voir s'il pouvait effacer numériquement les testicules des Tanuki en se disant, bah, on est quand même un peu embêté avec ça, quoi. Mais c'est un film incroyable.
C'est la version Bollocks Free.
Mais je trouve que c'est un film incroyable et on parlait justement de ce changement de style. Qui faisait dans une même séquence, d'une séquence à une autre, dans Souvenir goutte à goutte, qui faisait évidemment de film en film et tout, et dans Pompoko, il le fait sur les mêmes personnages, oui. dans un plan. C'est-à-dire que le truc des Tanuki, c'est qu'ils sont investis de beaucoup de pouvoir, et ils sont, c'est des créatures polymorphes, notamment. Mm. Et ce qui est, il y a un truc qui est fascinant, parce que c'est un film très militant, il avait aussi, un Takahata, c'est extrêmement écolo, c'était un syndicaliste, il a eu des contents avec le Parti communiste à une époque aussi, je crois. Et le film est ultra radical, comme disait Rafik. Enfin, je veux dire, les Tanuki, ils flinguent des ouvriers. Enfin, c'est des éco-warriors, quoi. Enfin, c'est quand même super violent. C'est et puis le film se termine sur un regard caméra qui interpelle le spectateur et qui est d'une puissance, je trouve, assez radicale. Mais c'est aussi un film qui, comme il le fera d'ailleurs dans son dernier film, mais qui revisite. Se réapproprie, rend hommage à l'iconographie japonaise. Il y a Okusai, pas Okusai, l'auteur des temples, le nom va me revenir, mais qui était un peu spécialisé dans les yokai, est cité littéralement. Enfin, c'est-à-dire, il y a des morceaux de ces estampes qui se retrouvent parce
qu'il y a le défilé final.
Il y a un défilé final
un morceau de bravoure,
qui est un truc incroyable, quoi. Enfin, les Ghiblis ont fait ça, et puis ils ont fait les galerie de monstres dans Chihiro. Enfin voilà, c'est pour moi c'est deux moments en fait de pure merveille visuelle, un truc d'une richesse incroyable. Et donc même dans les Tanuki, en fait il y a tout comme ça, tout un tas de références, et où aussi il nous donne c'est ça qui est génial aussi chez Takahata, que je retrouve finalement, j'arrive pas à trouver en fait d'équivalent, et j'ai l'impression qu'il utilise absolument tout ce que l'animation peut lui permettre en fait de faire. C'est-à-dire que s'il a besoin d'un truc un peu rough, un peu crayonné comme ça et gribouillé, bah va le faire. S'il a besoin d'un truc très fluide, de beaucoup plus précis, bah il va aussi l'utiliser. Et j'ai l'impression que dans chez les réalisateurs d'animation, c'est très cloisonné. C'est-à-dire que Bill Plinton, il fait du Bill Plinton. Disney, les animateurs chez Disney, ils font un truc spécifique.
Et même Miyazaki, il a un style reconnaissable d'un film à l'autre, là où effectivement Takahata est parti dans tous les sens. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il était leur professeur à tous, d'une certaine façon. Il a même formé Suzuki, le producteur de Ghibli. Sur ses premiers films à Ghibli, il avait comme character designer Yoshifumi Kondo, qu'il a donc formé aussi, et qui était devenu tellement brillant qu'il devait reprendre en fait le relais quand Miyazaki avait annoncé qu'il allait peut-être prendre sa retraite.
Nombreuses fois où il a annoncé.
Yoshifumi Kondo allait prendre le relais. Il a fait donc ce film Whispers of the Heart, en français, c'était Si tu tends l'oreille, je crois.
C'est ça.
Film assez attachant aussi. Et il est mort très brutalement, très jeune, quoi. Mais bon, c'était encore un de ces élèves merveilleux que Takahata était capable de former. Mais pas seulement en termes de technique, mais surtout en termes
d'esprit,
d'inspiration, de la façon de regarder le monde, en fait, pour justement apprendre à capturer ces instants-là. À propos de Pompoko, il disait aussi quelque chose, je ne sais pas si le film a vraiment été lu comme ça chez nous, mais les Tanuki du film, c'est nous, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une façon pour lui, pas seulement de parler d'écologie, mais aussi d'interpeller les citadins sur ce qu'ils deviennent, en fait, ce qu'ils se sentent obligés de devenir. Parce que les Tanuki, donc, à un moment donné, se disent on doit devenir humain pour pouvoir se fondre parmi eux, et ils essaient d'être des humains, et les contraintes, ils ne peuvent pas, quoi, si tu veux.
Un échec.
Voilà. Et en fait, c'était vraiment une façon de dire à tous ces salariés que toute cette énergie que vous dépensez pour être bien dans votre costume, alors que fondamentalement, vous êtes ces créatures païennes qui veulent aller bouffer au coin du feu.
Quoi. Les couilles à l'air.
Donc, vraiment, c'est un film incroyable.
Avant de clore l'émission, les amis, j'aimerais qu'on dise quand même un mot de son dernier film. Le conte de la princesse Kaguya, qui est finalement le dernier
rentrée de sa nous quitte avec ça, parce que c'est aussi un film sur le décès, sur la séparation, sur l'au-delà,
et un retour aux sources aussi, aux sources graphiques du manga et du dessin animé.
Le conte séminal de la princesse Kaguya, je trouve aussi que c'était un truc qui hantait un peu toute sa filmo. Puis d'ailleurs, il en faisait des références précises dans je parlais de la séquence tout à l'heure des Yamada. Il y a une référence en fait à ce conte là Il y a aussi une référence, je crois que dans qui est dans le générique d'ouverture, il y a aussi une référence à ça. Donc c'était assez logique en fait qu'il termine là-dessus. Puis c'est aussi la... un film qui est dans la continuité aussi des Yamada, c'est-à-dire que oui. c'est bon aussi de rappeler que les Yamada est peut-être techniquement l'aventure technologique la plus folle en fait que le studio Ghibli ait jamais entreprise en fait. C'est-à-dire que c'était extrêmement dur en fait d'avoir ce rendu-là, ce qui est pas forcément évident pour les gens qui connaissent pas vraiment les techniques d'animation, mais retrouver d'un style à un autre ces taches de couleurs en fait.
En fait, c'est un comic strip au départ.
À la base, ouais.
Voilà, et donc de garder l'esprit comic strip en fait dans une animation quasiment en volume en fait, parce qu'on a l'impression d'un film en 3D.
Et puis d'ailleurs, je trouve que les Yamada, c'est vrai que c'est un autre truc aussi. Les Yamada, je trouve que c'est un film d'une complexité qui se voit pas déjà techniquement, mais aussi au niveau de la narration. C'est-à-dire que le comic strip qui est savoureux, que je vous conseille de lire d'ailleurs, il est disponible en France. Il a été traduit il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans.
Il a été édité.
Il n'y a rien de pire d'adapter en long métrage qu'un comic strip. Et on le voit d'ailleurs avec toutes les adaptations hasardeuses de BD
pas,
en fait.
T'aimes pas Garfield
par exemple. Et ce qui est hallucinant des Yamada, c'est qu'il arrive à, il parvient à créer un film consistant, satisfaisant, où tu t'attaches avec les personnages, où ils existent, où tu as l'impression quand même qu'ils évoluent, tout en respectant cette impression de vignette. C'est quand même un truc de fou, quoi. C'est pareil, je vois pas d'équivalent, en fait, je vois pas d'autres films en fait qui soient parvenus à faire ça. Lors de ça, voilà.
Voilà, donner l'illusion de la simplicité, de la facilité.
Finalement, c'est ce qu'il
mais sa disparition pose aussi la question de l'héritage de Ghibli, hein, qui est la grande question que tout le monde se pose depuis des années et des années. Et,
que Miyazaki aussi se pose régulièrement, visiblement.
Je sais pas trop s'il se la pose. En tout cas, lui, il a mis pas mal des bâtons dans les roues de ça.
Il a fait en sorte de ne pas avoir de succès.
C'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que.
Même son propre fils.
Sa disparition aussi questionne l'âge aussi de Miyazaki, hein, forcément. Tu peux pas t'empêcher de te dire que Ghibli ne survivra pas en fait à ces deux piliers, à ces deux artistes fondamentaux en fait du studio, et que finalement Ghibli a été aussi conçu pour eux, et que ça aurait pu potentiellement créer une école, comme l'a rappelé tout à l'heure Raph, et que ça n'a pas été le cas.
Peut-être leur échec là, finalement.
En préparant ce petit podcast, j'ai réussi à voir un truc que je n'avais jamais vu, parce qu'il a fait un film live, donc un documentaire.
Mais il n'était pas forcément attaché aussi à l'animation, c'est l'autre truc.
Avec Miyazaki à la caméra d'ailleurs, qui s'appelle L'histoire du canal de Yanagawa. Et j'ai réussi à le trouver sur un site japonais en assez bonne qualité. Et c'est fascinant parce que c'est juste des prises de vue en fait du canal de Yanagawa. Et c'est là que tu vois toute cette science du regard. Enfin, c'est vraiment. Il te filme un escalier près de l'eau et t'es complètement stupéfait. tu restes comme ça une minute à regarder le truc en disant mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Ah bah, y a un saut de bois là. Tu vois, tu comprends la puissance de l'évocation de ces films.
Du regard d'Isao Takahata. Merci à tous les deux. Notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous aussi vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.